Quelle résistance peut se mettre en place au travail face à l'organisation néolibérale de celui-ci? Quel risque comporte cette résistance? C'est à ces questions et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Antoine Duart, responsable de l'Institut de psychodynamique du travail, chercheur et maître de conférences en psychologie sociale du travail et des organisations à l'Université de Toulouse. Avant de lancer l'épisode, je me présente, je suis Lucretia Azzano, je suis intervenante en organisation et formatrice. J'anime cet épisode avec Denis, que je suis très heureuse de rejoindre au sein du podcast Zéro Virgule. Donc, pour en dire un peu plus sur moi, je mets au cœur de mon travail le développement du pouvoir d'agir des individus et des collectifs. Je m'intéresse à tout ce qui touche au travail réel, vécu, vivant, aux conditions de la coopération et aux modes d'organisation dans les entreprises et les institutions.
Antoine Duart, bonjour.
Bonjour.
Dans vos travaux, le thème de la résistance y est central. Qu'est-ce que vous entendez par résistance ?
Ma conception de la résistance, en tout cas la manière dont j'essaye de l'instruire, porte sur une définition assez classique au début, c'est-à-dire que c'est une pratique d'opposition volontaire à quelque chose. Voilà. C'est un point de départ, un parti pris qui engage en fait une lecture de la résistance directement dans sa dimension plus politique. Donc, dans quelle mesure je peux instruire des conduites, des pratiques d'opposition volontaire à quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, c'est l'organisation gestionnaire du travail, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui, je pense, de manière un peu plus précise, l'organisation néolibérale du travail. Donc, quand je m'intéresse à des pratiques d'opposition volontaire à l'organisation, lorsque je parle de résistance, je parle justement d'une pratique d'opposition volontaire à l'organisation néolibérale du travail. Pourquoi c'est important de partir de cette petite définition? C'est que échappe en fait à mon intérêt, j'ai envie de dire, ou à mon analyse, toutes les pratiques qui seraient des pratiques qui viserait par exemple à qui viserait à par exemple à tenir sur la situation de travail. Assez souvent on peut avoir cette idée que résister le travail, c'est résister, par exemple résister à la chaîne de montage. C'est un ouvrage de Michel Pialou et de Christian Corrouge, qui est un syndicaliste, qui s'intitule Résister à la chaîne, dans lequel il y a toute une description de la manière dont on résiste à la chaîne, c'est-à-dire comment les ouvriers font pour ne pas tomber malade sur la chaîne de montage. De mon point de vue, ce n'est pas une pratique d'opposition volontaire à l'organisation du travail. Cette résistance à la chaîne du montage, c'est plutôt la description de l'adaptation à la chaîne de montage. Une pratique d'opposition volontaire nous induit tout de suite dans une pratique qui est une pratique de lutte, justement, à l'organisation néolibérale du travail. Donc voilà un peu déjà le point de départ de ma réflexion, c'est dans quelle mesure je peux, dans mon travail, comprendre le déclenchement d'un certain nombre de pratiques d'opposition volontaire à l'organisation néolibérale du travail.
Et peut-être plus précisément par rapport à un lien avec vos interventions dans différentes organisations et institutions, contre quoi et contre qui on résiste?
Donc contre quoi luttent les collectifs et les personnes que j'ai pu rencontrer, que je rencontre encore aujourd'hui, et qui, en fait, de mon point de vue, résistent à l'organisation néolibérale du travail? Ils luttent contre, justement, cette organisation du travail qui est caractérisée par 5 dispositifs. Le premier des dispositifs qui continue à se développer aujourd'hui est l'évaluation individualisée de la performance. C'est pas exactement de ça dont on parle. Quand on parle d'évaluation individualisée de la performance, on parle surtout d'une évaluation qui est quantitative du travail. C'est-à-dire, elle est une manière de penser l'évaluation du travail qui n'a recours qu'aux chiffres. Cette évaluation de la performance passe par la structuration d'indicateurs de mesure qui seraient supposés dire la vérité du travail. Et cette évaluation quantitative, elle est individualisée Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer quantitativement le travail qui a été réalisé. Et à partir de là, il y a un certain nombre de pratiques qui permettent de comparer les performances. Et cette comparaison des performances va avoir des incidences sur... on voit que l'évaluation individualisée de la performance, elle peut avoir des effets dévastateurs dans les collectifs de travail sans qu'il y ait forcément d'augmentation individuelle afférente. Le simple fait de pouvoir comparer les performances individuelles a des effets très destructeurs sur les collectifs de travail. Par exemple, le premier dispositif, le deuxième dispositif qui caractérise l'organisation néolibérale du travail, c'est ce qu'on appelle la standardisation et la normalisation des modes opératoires. Cette standardisation et cette normalisation des modes opératoires, elle est là aussi, donc elle n'est pas très nouvelle, mais il y a vraiment cette idée que pour traiter équitablement les personnes, notamment dans les services, eh bien il faut, alors souvent c'est le terme d'harmonisation des pratiques qui est évoqué, mais c'est vraiment cette idée qu'il faut standardiser les modes opératoires, c'est-à-dire il faut faire la même chose avec tout le monde. Cette standardisation et normalisation des modes opératoires, elle passe aussi par différents canaux en fonction des institutions. Dans l'hôpital public, la haute autorité de santé est un des maillons essentiels dans la standardisation et la normalisation des modes opératoires, mais c'est ce qu'on retrouve dans toutes les institutions avec cette idée, vraiment, encore une fois, qu'il faut avoir des standards dans la réalisation des tâches. Et alors tout ça aussi est très offensant pour les gens de métier, notamment les gens qui sont très inscrits dans la relation de service, puisque dans la relation de service, il ne faut pas standardiser les modes opératoires, il faut justement les ajuster à chacun des bénéficiaires. Voilà. Donc ça a aussi des effets très puissants dans la déstructuration des métiers. Le troisième dispositif, c'est les dispositifs dits de qualité totale, que l'on retrouve un peu partout, ou en tout cas cette idée comme ça que il faut instaurer des processus dits qualité. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est évoqué directement par les qualiticiens, mais en fait, il y a plein de dispositifs qui sont aussi des fois des dispositifs réglementaires et juridiques qui imposent la mise en place de cette démarche dite de qualité. Alors, un des exemples aujourd'hui caractéristiques, c'est Calliope, par exemple, pour les organismes de formation, dans lesquels on va décider de pouvoir attribuer une certification à partir du moment où l'organisation du travail se plie la démarche dite de qualité. Il y a vraiment cette idée que la qualité des soins, la qualité d'une formation, la qualité d'un service repose en fait sur la mise en place d'un certain nombre de protocoles et de procédures qui, par mobilisation d'un certain nombre d'indicateurs, donc de checkpoints, on va pouvoir mesurer les écarts à la norme. Et donc, ce qui est la garantie de la qualité d'un service, c'est l'application de la dite procédure qualité, qui est en fait une procédure qui engage en fait l'organisation du travail dans un ensemble en fait de construction de procédures et de boucles de rétroaction qui très rapidement nous éloigne du travail réel. Et il y a vraiment cette idée que ce qui permet de faire un travail de qualité, c'est la mise en place de cette procédure-là. C'est pas du tout le fait de disposer de gens expérimentés et des gens qui disposent d'un métier. Voilà, c'est vraiment cette idée que il faut appliquer cette démarche-là. Et souvent, les qualiticiens expliquent que cette démarche-là est le processus des processus. Donc, on va là aussi obtenir des formes de standardisation aussi, de désorganisation du travail. Voilà. Donc, la qualité totale. Sauf que la qualité est un leurre, puisque on pense qu'on va justement pouvoir faire progresser la qualité en mettant en place ce type de procédure. Alors que généralement, ce qu'on va construire, notamment ensuite au moment des certifications et des audits de certification, on va plutôt construire un mensonge organisationnel, puisque les gens vont expliquer qu'ils font le travail de cette manière-là, alors qu'en vérité, ils ne font que ajuster l'écart entre le protocole et le réel du travail, quoi. Voilà. Donc c'est un déni du réel du travail, un déni de l'intelligence, et donc assez souvent ça provoque comme ça ce que François Danilou appelle des usines à mensonges. Voilà. Troisième point. Le quatrième point, c'est quand même le point qui relève de la précarité de l'emploi, c'est-à-dire que c'est un dispositif extrêmement puissant de l'organisation néolibérale du travail, le fait de transformer le code du travail, le précariser. Donc il y a un ensemble comme ça de recherches, notamment sur l'ubérisation du travail. Ubérisation qui est quand même un terme voilà, qu'on peut discuter, mais en tout cas tout ce qui relève de l'analyse du capitalisme dit de plateforme, ou en tout cas peut-être plus précisément des plateformes. J'ai deux collègues à l'Institut de psychodynamique du travail qui viennent de sortir un ouvrage assez remarquable qui s'appelle Plateforme. Donc c'est un ouvrage de Stéphane Lelay et de Fabien Lemozy qui traite en fait de ce problème-là, donc vraiment la précarité du travail avec la transformation des cadres, des institutions du travail. Cette précarité de l'emploi, elle s'assortit justement d'une précarité un peu dans l'organisation du travail, ce que Daniel Linhart va appeler la précarisation subjective du travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi dans les dispositifs même de l'organisation du travail des transformations permanentes de l'organisation du travail. Il y a toujours un nouveau schéma directeur opérationnel, il y a toujours un nouveau logiciel, il y a toujours une nouvelle réorganisation du travail, ce qui fait que l'application, la possibilité que se forment des repères collectifs, donc chaînons déterminants dans la structuration de la coopération, est rendu presque impossible par ces transformations constantes de l'organisation du travail. Ensuite, le dernier point, c'est la frappe communicationnelle, ou ce qu'on peut appeler la propagande, c'est-à-dire les directions de la communication aujourd'hui, pour le coup, elles sont très importantes, et elles ont comme effet de produire là aussi une distorsion communicationnelle, et les directions de la communication, elles sont très importantes dans la construction d'une néo-réalité qui permet d'opérer un déni de perception de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Voilà contre quoi luttent les gens qui résistent à l'organisation néolibérale du travail.
Alors si je résume, en fait on va résister contre cette organisation néolibérale qui peut s'apparenter à, vous avez parlé de propagande, à la précarité, qu'elle soit subjective ou objective, à la standardisation, à l'uniformisation, à l'évaluation individuelle. Est-ce que face à tous ces éléments, il y a un déclic commun qui va lancer la résistance que vous avez pu observer, ou est-ce que ça dépend véritablement d'un contexte et des personnes?
Alors c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que ça dépend beaucoup d'un contexte et de personnes. Malheureusement, donc l'organisation collective, qui permet de s'opposer à l'organisation néolibérale du travail, et plus spécifiquement à quoi il s'oppose. Il s'oppose à trois des conséquences majeures de l'organisation néolibérale du travail, c'est-à-dire le déni de l'intelligence et du travail vivant, c'est-à-dire que les organisations du travail dénient le fait que les organisations du travail fonctionnent et marchent parce que les gens qui travaillent à l'intérieur mettent de leur intelligence et notamment le travail vivant dans l'institution. Il y a un déni par ces dispositifs-là que je viens de décrire. Il y a aussi une déstructuration des collectifs de travail, ça c'est une des conséquences majeures, et l'instauration de la solitude. Et ensuite, cette organisation du travail éloigne en fait du rapport aux bénéficiaires des services, ce qu'elle va produire aussi, c'est une élévation du seuil de tolérance à l'injustice sociale, ce qu'on appelle le processus de banalisation du mal ou processus de banalisation de l'injustice sociale. Donc les gens qui vont s'organiser pour résister à l'organisation néolibérale du travail, ce qu'ils vont faire surtout, c'est qu'ils vont s'organiser pour essayer de faire collectivement un travail honorable, un travail de qualité. Ils vont décider de se mobiliser pour défendre spécifiquement la qualité du travail. Ce n'est pas défendre l'augmentation des salaires ou défendre la réduction du temps de travail. Non pas que je sois contre l'augmentation des salaires et la réduction du temps de travail, ce n'est pas le problème. C'est que cette pratique collective, elle va être mobilisée directement pour... Donc, elle va s'opposer volontairement à ce que je viens de décrire. Pourquoi ? Pour rendre un service de qualité, pour faire un travail qu'ils vont, eux, juger honorable. C'est la construction collective, elle vise le fait de défendre le métier, la qualité du travail, les bénéficiaires, les usagers, les patients, etc. C'est ça, l'action de résistance, elle est là-dessus. On s'organise collectivement pour s'occuper des gens. Comme dans un centre d'accueil et de demandeurs d'asile, collectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'occuper des familles. Voilà, c'est ça, c'est la ligne directrice c'est la qualité du travail. C'est la résistance, elle porte là-dessus. Et donc, le déclic, il est souvent individuel. Ça, c'est aussi important. Il n'y a pas de sorte d'épiphanie collective comme ça. Ce que je constate beaucoup, c'est que les collectifs dans lesquels j'ai pu voir cette organisation-là, et notamment, peut-être on verra dans le détail, une organisation quand même assez discrète, voire clandestine, de la coopération pour s'occuper des gens. Le point de départ, assez souvent, c'est quand même l'expérience de l'angoisse. Enfin, pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que l'angoisse, elle est un des chaînons intermédiaires décisifs. C'est-à-dire que pour les gens rentrent en résistance dans ce type de situation-là parce que ils font dans leur travail des choses qui, en retour, vont déclencher un conflit psychique. Alors, dans ma thèse, notamment, je parle du cas d'un électricien qui ensuite va devenir un Robin des Bois de l'énergie, donc qui va se mobiliser pour notamment rétablir le courant pour les familles qui ne peuvent pas payer leur facture d'électricité. Ce que lui va me raconter, c'est que un jour, il va faire une coupure d'électricité et il va croiser une famille. Il ne sait pas si c'est cette famille à qui il a coupé l'électricité, mais il va croiser cette famille et notamment, il va croiser le regard d'un petit garçon. Et donc, c'est assez bouleversant la manière dont il raconte ça, puisqu'il raconte que le regard de ce petit garçon va le poursuivre, jusque-là y compris dans son activité onirique, dans ses rêves. Et il va être tourmenté. Il va être tourmenté par... Et donc, régulièrement, le regard de ce gamin... réapparaît dans sa vie psychique et donc il va commencer à être très angoissé en se disant mais couper le courant à cette famille là c'est pas bien. Voilà, c'est comme ça qu'il va le formuler. C'est vraiment la dimension éthique et morale, hein. Et donc lui qui n'était pas du tout issu d'une tradition militante, hein, petit à petit il va décider de se rapprocher puisqu'il avait déjà eu écho de certains collègues qui clandestinement rétablissaient le courant, et il va s'engager de ce côté-là. Il va s'engager parce que justement, il n'arrive pas à mettre de côté le conflit psychique. Il est angoissé. Et ce que je vais retrouver dans toutes les situations dans lesquelles les gens rentrent en résistance, c'est que les gens, dans un premier temps, ils sont angoissés par ce qu'ils font. Et notamment, ils jugent que ce qu'ils font, ça ne va pas. Ils jugent que ce qu'ils font, eh bien, c'est pas bien. Vous voyez, il y a vraiment une dimension très importante qui relève de la capacité à endurer en fait l'angoisse, et notamment l'angoisse de celui qui n'a pas forcément bien fait. Donc, ce qui fait que c'est très difficile, vous voyez, que les gens arrivent à supporter ça. Dans l'immense majorité des cas, on se défend contre ce conflit psychique-là, contre cette souffrance, hein, qui a un nom, c'est la souffrance éthique. Cette souffrance qui vient du fait de consentir à réaliser des actes qui vont à l'encontre de son sens moral, de son propre sens moral. Et ce qui est vraiment très, très touchant, c'est de voir que c'est des gens qui n'arrivent pas à se cliver, c'est-à-dire c'est des gens qui n'arrivent pas à se séparer en deux et en quelque sorte à laisser de côté le sens moral dans une part de leur vie, c'est-à-dire le travail, pour ensuite le faire fonctionner dans une autre part de leur vie, à l'extérieur du travail. Ils ne se clivent pas. Et donc, un des moteurs premiers de cette résistance-là, c'est la souffrance éthique, et notamment la capacité à l'endurer et à la penser. Et donc, rencontrer des gens comme ça, c'est assez bouleversant, parce que c'est des gens qui, tout de suite, ne sont pas uniquement dans la dénonciation, ils sont là et ils vous disent, en fait, moi, je me suis engagé parce que ce que je faisais, ça n'allait pas. Et quand on rencontre des personnes comme ça, c'est vraiment très émouvant et très touchant. Et alors là, eux, eh bien, ils vont décider de s'engager, ils vont chercher un, deux collègues, et ces un ou deux collègues, eux aussi, sont tourmentés. Et donc, une fois qu'ils sont deux, Une fois qu'on est 3, 4, on n'est plus tout seul. Et c'est là que démarre la résistance. Et une résistance dans laquelle les gens disent, bah, l'organisation du travail, en fait, fait tout pour qu'on maltraite les gens que nous accompagnons, que nous suivons, dont nous devons nous occuper. L'organisation du travail fait tout pour qu'on maltraite la forêt. C'est comme ça qu'on voit ça à l'ONF. Alors là, on voit des forestiers, des forestières qui se mettent ensemble et qui discrètement et clandestinement désobéissent pour s'occuper de la forêt et pour laisser une forêt honorable à nos enfants. Et donc là démarre la coopération, ce que j'appelle la coopération extraordinaire, qui est le terreau de la résistance.
Mais dépasser cela pour arriver vraiment au collectif n'est pas si évident que ça. Donc, non. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples de comment cette coopération s'est mise en place et de comment justement on passe d'une coopération qu'on pourrait peut-être dire classique à ce que vous appelez après une coopération extraordinaire qui me semble dépasser le cadre d'une coopération normale?
Tout à fait. Oui. Donc pour moi, c'est extrêmement important de maintenir la dimension individuelle, parce que là aussi, souvent lorsqu'on traite des questions relatives à l'action, on va parler de l'action collective, et là aussi, c'est pas assez des grandes questions à la fois de philosophie politique et également de sciences politiques, comment l'action collective démarre. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, faut ne pas lâcher cette expérience individuelle qui passe par un conflit intrapsychique. Voilà. Comment elle démarre cette coopération? Elle démarre par une discussion, par une délibération dans laquelle je peux, moi, qui doute sur la validité de ma position, qui doute sur la dimension éthique de mes actes, en fait, je peux en parler à quelqu'un, je peux en discuter, je peux le délibérer. Et cet autre, il est capable aussi de me confier ses doutes également. Donc la délibération, elle part de là, de la possibilité de partager ses doutes, qui sont des doutes qui portent spécifiquement sur le travail, la qualité du travail, la dimension éthique, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, dans le travail. C'est très important. À partir du moment où je peux discuter de ça avec quelqu'un, c'est des choses que je rencontre aussi dans différentes institutions. Voilà. J'ai pu rencontrer ça aussi au sein du Pôle emploi. Les gens se mettent à discuter de leurs doutes et à partir de là, décident par la discussion, d'essayer de s'organiser pour continuer à bien faire le travail. Ce qui est important, c'est que lorsque démarre cette délibération et que petit à petit, les gens arrivent, on arrive à trouver des comparses pour faire ce travail-là, la coopération qui se construit, elle se construit avec des individus qui, quand même, se sont dépris de la reconnaissance institutionnelle. C'est un point très important. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est tellement compliqué, c'est que l'action de résistance, elle passe par le fait de se désaliéner, en quelque sorte, de l'attente de reconnaissance de l'institution. Puisque l'analyse qui est faite, notamment de l'institution, ces institutions qui sont structurées par l'organisation néolibérale du travail, si j'ai une reconnaissance de cette institution, c'est que j'ai une reconnaissance du fait que je détruis mon métier et que quand même je ne m'occupe plus convenablement des gens. Donc ce sont des gens qui s'organisent collectivement et qui n'attendent plus de reconnaissance de l'institution. Ils continuent à attendre une reconnaissance, mais cette fois-ci, c'est une reconnaissance qui dépasse le cadre uniquement de leur organisation du travail, mais qui est en fait une reconnaissance de la dimension politique de leur travail. Ils attendent, en fait, et que tout ce qu'ils font puisse être reconnu comme étant une contribution à l'œuvre collective et à ce que Christophe Dejour reprend d'un philosophe qui s'appelle Michel Henry, la possibilité d'honorer la vie. Donc cette coopération, elle est très importante et elle est extraordinaire parce qu'elle se déprend de l'attente de reconnaissance de l'institution pour, en quelque sorte, se mobiliser plutôt du côté de l'édification de la société et la contribution à l'œuvre commune et à la construction de la cité. Qu'est-ce que je vais laisser, moi, dans mon travail, peut-être à la société et aux générations futures. C'est pour ça que certains militants de l'ONF, des forestiers, des forestières, posent comme axe principal de leur action cette interrogation qui est « Quelle forêt pour nos enfants ?» Donc la coopération extraordinaire, elle est spécifiquement articulée aux politiques et à la capacité de construire quelque chose qui nous permette d'honorer le travail, d'honorer la vie, et qui va les faire rentrer directement dans une pratique d'opposition à l'organisation néolibérale du travail, puisqu'elle implique en fait une destruction de cette qualité. Et donc, pour conclure, voilà, c'est individuellement des gens qui ont des doutes se mettent à se parler, et de cette discussion naît de nouvelles pratiques. Voilà.
Antoine Wart, merci.
Merci à vous.
Merci.
C'est ainsi que se termine notre épisode consacré à la résistance au travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire l'article d'Antoine Duarte intitulé « Résistance et travail vivant, les apports de la psychodynamique du travail ». Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.